Hello, je suis Adriana, coach formatrice professionnelle et créatrice de contenu. Au quotidien, j'accompagne les entreprises, dirigeants, managers et entrepreneurs pour engager le changement et convertir leurs objectifs en réussite. Avec ma casquette de créatrice de contenu, j'accompagne également les organisations pour les aider à être visibles sur le web. Seul ou en compagnie d'entrepreneurs inspirants, je vous propose d'explorer ensemble l'entrepreneuriat avec une vision à 360 degrés chargée de good vibes pour écouter vos ambitions et inspirer votre business. Installez-vous confortablement et let's go pour le démarrage de ce nouvel épisode. Enjoy! Bienvenue, vous qui nous rejoignez sur Plumania. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau podcast où j'ai le plaisir d'accueillir de nouveau Bassem Mejri, qui déverrouille le passage à l'action du business de l'entrepreneur. Bassem Mejri est venu tout récemment sur Plumania pour aborder les tabous financiers et partager les clés pour une relation à l'argent apaisée et décomplexée. Donc je vous invite à réécouter ce podcast. Bassem Mejri est de retour aujourd'hui pour approfondir ce podcast. Installez-vous confortablement et let's go pour le démarrage de cet épisode. Hello Bassem.
Salut, tu vas bien?
Ça va très très bien, et toi? Ouais,
parfaitement.
Nous avons enregistré un podcast il y a quelques semaines, tu nous as partagé des pépites, et aujourd'hui, c'est le moment de passer à l'action.
Et oui, passer à l'action, c'est tout le sens de la préparation précédente, c'est d'arriver dans les meilleures dispositions possibles, de passer à l'action, et de s'engager, parce que l'action c'est quoi? C'est l'engagement vers un objectif concret. On arrête de rêver, on arrête de faire des plans sur la comète, et c'est très très important d'être dans l'action. On est vraiment en vérité et dans la vérité avec un grand V. C'est très important d'être un homme ou une femme d'action, parce que sinon on est dans un monde fictif.
Au quotidien, tu es professeur en entrepreneuriat, business et finances dans plusieurs écoles de commerce à Paris. Tu es également fondateur de Frégate Édition, maison spécialisée dans les finances personnelles. Et tu es également éditeur et traducteur de livres, dont l'ouvrage de référence The Millionaire Next Door.
Absolument. Je suis le fier éditeur et traducteur de ce classique des finances personnelles que j'ai eu la chance de récupérer et qui était comme ça en attente d'une personne qui puisse le proposer au public francophone.
Avant d'explorer les moyens de déverrouiller le passage à l'action du business de l'entrepreneur, est-ce que tu peux nous partager ta vision de l'entrepreneuriat ?
Il y a tellement de choses à dire.
Commençons par ce qui t'inspire tout particulièrement.
Alors, l'entrepreneuriat, c'est une discipline, c'est une activité commerciale où on ne peut pas tricher, déjà. C'est-à-dire qu'on, je disais tout à l'heure le mot « en vérité » et c'était pas choisi au hasard. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être fake dans l'entrepreneuriat. On peut l'être, mais on va vite être démasqué. Autant aborder cette activité avec le plus de sincérité possible. Parce que si on est sincère, si on est authentique, si on est vrai, les gens vont le ressentir. Quand je dis les gens, je parle à la fois des employés, des salariés, des clients, toutes les parties prenantes. Et ils vont vous le rendre mille fois mieux ou mille fois plus. Vous allez avoir des feedbacks qui vont être plus positifs. Il ne faut pas arriver avec une posture où dire « je vais être un entrepreneur, mais je vais me créer un personnage » ou « je vais jouer un rôle ». Ça ne marche pas. Ça ne marchera pas sur le long terme. Ça peut marcher sur une petite phase si vous lancez un petit produit comme ça, mais ça ne marchera pas sur le long terme. Donc en fait, l'entrepreneuriat, ça exige que la personne se connaisse assez bien elle-même. C'est pour ça que dans l'histoire de l'économie, dans l'histoire de la finance, il y a très très peu d'entrepreneurs qui ont réussi jeunes. Enfin, j'en connais pas, qui ont 15 ans, 12 ans, 11 ans. Il faut déjà avoir cette connaissance de soi-même, avoir découvert sa vocation, savoir connaître ses envies, qu'est-ce qu'on veut devenir dans la vie. Et après, en réunissant tout ce background, on peut se lancer en ayant les bonnes ressources avec soi, les bonnes compétences. On peut lancer enfin son projet et rentrer de plein pied dans l'action en créant des associations avec les bonnes personnes.
Ça vient souvent toucher la confiance en soi, ce que j'observe dans mon réseau. C'est des personnes qui ont le projet de se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui ont parfois peur d'être elles-mêmes, par peur de déplaire à leur marché, peur de déplaire également aux potentiels partenaires ou investisseurs. Qu'est-ce que tu en dis ?
Alors moi, ce que je dis, c'est très clair, c'est qu'on peut pas plaire à tout le monde de toute manière. Donc on va forcément déplaire à quelqu'un. C'est la nature des choses. Je connais personne sur Terre qui fait 100% des avis positifs. Ce n'est pas possible. Donc forcément, on va déplaire à quelqu'un. Faisons fi de ces personnes-là et considérons d'emblée en tant qu'entrepreneur qu'elles ne font pas partie de notre cible. Donc ça sert à rien de se focaliser là-dessus. De toutes les manières, ils sont pas dans la cible. Ils ou elles ne sont pas dans la cible. Donc autant les exclure et mettre leur avis à la marge. Ça nous fait du bien à nous, à notre ego. Ça fait du bien à notre santé mentale de pas lire les commentaires négatifs des trolls sur Internet. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, il faut savoir se poser les bonnes questions. C'est-à-dire, pourquoi j'entreprends? Parce que des fois, les gens entreprennent pour les mauvaises raisons. C'est-à-dire que ils en ont marre d'une vie un peu routinière ou... où il n'y a pas de vague, ils se disent peut-être que dans l'entrepreneuriat, je vais trouver un peu goût du risque, je vais mettre en danger. Mais pour entreprendre vraiment en souhaitant réussir, avec beaucoup d'ambition, il faut le faire pour les bonnes raisons. Donc il faut avoir un bon produit, il faut avoir un excellent service, il faut avoir les compétences. Soit on les a nous-mêmes, soit on a une équipe autour de nous, la Dream Team, et on va la développer. Et aborder son marché avec un angle, avec une approche originale, c'est-à-dire que comme personne ne l'a fait avant. C'est ça la valeur ajoutée de l'entrepreneur, c'est d'arriver sur un marché avec un produit qui n'existait pas avant, avec une approche qui n'existait pas avant, avec un prix différencié, avec une promesse que l'on va tenir et on va satisfaire un maximum de personnes. C'est pour moi les ingrédients nécessaires pour entreprendre.
Je rebondis sur ce que tu viens de partager par rapport au produit par exemple qui n'existait pas auparavant. Peut-être qu'il y a des auditeurs qui se demandent, mais on fait comment pour trouver ce produit qui n'existe pas encore?
On cherche à innover. On est dans une logique d'innovation. Je peux donner 3 exemples rapidement.
Avec plaisir.
3 exemples, mais hyper rapidement. Mais je pourrais développer si c'est nécessaire. Par exemple, quand Apple décide de se lancer dans les téléphones, ils ont exprès attendu que le marché mûrisse. On va dire, ils avaient déjà l'idée au début des années 2000, mais ils ont attendu que Nokia sorte leur téléphone. Ensuite, c'était les Ericsson qui étaient à la mode. Et in fine, c'était les BlackBerry, je ne sais pas si tu te rappelles, avec oui, les claviers avec plein de touches, ABCD, tout ça. Ils ont attendu que le marché mûrisse, que le public s'habitue au smartphone avec les clapets, tout ça. Enfin, je sais que tu as connu cette époque-là. Et eux, ils sont arrivés avec un modèle rien à voir avec les précédents. C'est-à-dire qu'on était avec le BlackBerry avec plein de touches. Eux, ils ont dit plus aucune touche. On était dans des modèles assez épais, assez massifs. Les gens de l'époque peuvent en témoigner. Et on arrivait avec un modèle relativement fin. Enfin, le premier n'était pas très fin, mais après, on va vers une miniaturisation des smartphones. Donc, ils sont arrivés avec un produit qu'on n'avait jamais vu avant. Un produit totalement tactile, totalement intuitif. La présentation de Steve Jobs est rentrée dans l'histoire depuis. La fameuse keynote où il présente l'iPhone, où il dit qu'il n'y aura pas de stylet. Votre stylet, c'est votre doigt, comme ça vous êtes sûr de ne pas le perdre. Parce que les autres agendas électroniques de l'époque, ils avaient un stylet, tout ça. Donc voilà, ils avaient vraiment innové. Donc il faut investir, il faut avoir les ressources financières pour pouvoir investir dans l'innovation et arriver sur le marché avec un produit qu'on n'a jamais vu avant et qui va révolutionner son marché. Quand vous arrivez avec un produit comme l'iPhone, je prends l'exemple, il sortait en 2007, donc ça fait déjà plus de 15 ans. Oui. Le temps passe vite. Quand vous arrivez avec un produit qui n'a jamais été vu avant, qui est totalement innovant, totalement disruptif, totalement révolutionnaire, n'ayons pas peur des mots, vous êtes sûr que le marché va vous accueillir avec joie et avec bonheur. Pourquoi? Parce que c'est pas au marché de vous donner de la valeur à vous, c'est vous, entrepreneur, qui créez de la valeur sur ce marché.
Et on vient toucher la curiosité, justement.
On vient attiser la curiosité et on brûle le désir des autres de se procurer ce fameux iPhone. Deuxième exemple, un exemple plus français. Au début des années 2000, l'entreprise Free crée la Freebox. Là, je pense à Xavier Niel. Il se dit, bientôt, les foyers français vont recevoir la DSL. Bon, aujourd'hui, on a dépassé cette technologie puisqu'on est sur la fibre optique. Et ils se disent, avec la DSL, qu'est-ce qu'on peut faire, en fait? On peut faire de la télé, techniquement, avec le signal ADSL. On peut faire du téléphone, bien sûr, parce que la voix sur IP. On avait déjà Skype à l'époque, mais on n'avait pas le boîtier. Et on peut faire, bien sûr, de l'Internet. Donc, de l'Internet, de la télé et du téléphone. Mais le problème, c'est qu'on avait le signal qui passait dans les fils, mais on n'avait pas le boîtier. Le signal sans le boîtier, ça n'a aucun sens. J'ai la ressource, mais cette ressource, elle n'est pas transformable. C'est comme si j'avais le soleil, mais j'ai pas de panneaux solaires pour les capter, donc ça n'a aucune utilité. Eux, ils ont créé la Freebox. Ils sont partis aux États-Unis, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas de Freebox aux États-Unis, donc ils sont revenus à Paris, ils sont revenus en France, pour créer la Freebox ad hoc, c'est-à-dire from scratch, en partant d'une feuille blanche, de zéro. Après, il y a eu la version 1, version 2, version 3. Aujourd'hui, je crois qu'on a la version 12, 13, 14, je sais plus. Ils sont arrivés sur le marché, et ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est qu'ils étaient pas nombreux chez Free. Moins de 10. Ils étaient face à Thomson, donc des grandes boîtes.
Orange, Bouygues,
Siemens. Et ils ont réussi, avec une toute petite équipe, à révolutionner le marché. Et j'attire ton attention, l'iPhone aussi, c'était une toute petite équipe. C'était 5 ou 6, dont Steve Jobs, qui était il chapeautait un peu le projet.
Il était informaticien, je pense, à la base, en plus, chez Apple. Il était employé chez Apple, je pense.
Oui, absolument. Mais ils étaient 5 ou 6, il y avait un designer, un programmateur, ils n'étaient pas nombreux, c'était une toute petite équipe, et malgré le fait qu'ils ne soient pas nombreux, ils ont quand même révolutionné leur marché. Donc ce n'est pas une question de taille, c'est une question de créativité, d'efficience et de vouloir révolutionner son marché. Troisième exemple, je me mets aussi dans la boucle, je me permets, Millionaire Next Door, c'est un ouvrage que les gens voulaient lire mais qui n'était pas disponible. Le fait qu'un entrepreneur puisse le rendre disponible, tout de suite ça crée de la valeur sur le marché. Donc les gens vont aller sur Amazon, vont dire Millionaire Next Door en français, ah il est disponible, je vais l'acheter, je vais le lire. Pour répondre à ta question, c'est le fait d'apporter un produit qui n'existait pas auparavant. Donc c'est de la recherche, c'est de la veille informationnelle, c'est de l'innovation. Et quand tu mets tous ces petits ingrédients dans ta coupole, t'en ressors avec un produit, un service qui est exceptionnel et que les gens vont s'arracher.
La chose à laquelle tu me fais penser, c'est une image en fait. L'image de la construction de cette idée innovante, c'est peut-être partir d'une feuille blanche en posant, alors que ce soit une image ou un mot, le point de départ de l'idée ou en tout cas de ce qu'on vise, ce qu'on recherche. Et après, de faire graviter autour toutes les sources informationnelles vers lesquelles se tourner pour construire ce produit ou ce service innovant.
Oui.
Ça correspond quelque part à du brainstorming.
En quelque sorte, je pense que dans le processus de création de ces produits-là que j'ai cités précédemment, ils doivent se poser quelques questions clés. C'est-à-dire, ils doivent se dire comment créer une entreprise que les gens vont aimer. Enfin, la communauté d'Apple, elle est connue, quoi. Quand il y a un nouveau produit qui sort... Enfin, tu vois les images sur Internet, les gens dorment devant la boutique.
Ouais.
Ils sont avec leur couette, ils sont avec leur oreiller, ils sont prêts à dormir dans la nuit, froid, dans l'hiver, pour être les premiers à sortir avec
le Graal,
l'iPad ou la dernière montre ou le dernier téléphone. Quand tu arrives à créer une espèce de communauté...
Et engagée.
Ils vous défendent de bec et ongle, ça y est, ils sont plus qu'engagés. Ils suivent toutes les informations, ils vous suivent sur Internet, sur les réseaux sociaux, ils vous défendent contre les autres. Quand vous réussissez à créer cet effet de communauté autour de votre produit, c'est que vous avez réussi à créer une marque.
Et quelque part, une dépendance et peut-être même une interdépendance entre eux.
Et bah, forcément, qui dit marque dit dépendance du producteur au consommateur. Ça existe depuis la nuit des temps. Cette dépendance, cette marque, la puissance de la marque, elle se bâtit sur la culture. Quelle est la culture de l'entreprise ? Si par exemple on prend le cas d'Apple, une marque qui est hyper connue, c'est une marque qui est innovante, qui est design et qui est haut de gamme, pour aller très vite, mais je pourrais aller dans plus de détails. Si on prend une marque comme Amazon maintenant, je change un petit peu mon fusil d'épaule. La marque d'Amazon, elle a tout bâti, toute sa marque, autour d'un axe. Un axe, pas 36, un axe. Lequel ? La satisfaction des clients. Je crois que c'est la seule entreprise au monde, c'est pour ça que j'en parle à ton micro, qui ne regarde jamais la concurrence, s'en fiche totalement de la concurrence. Par contre, à chaque réunion d'entreprise, il y a une chaise vide qui représente le client. Et c'est ce qu'impose Jeff Bezos dans n'importe quelle réunion, aussi petite soit-elle, il y a une chaise vide pour ne jamais perdre de vue qu'ils font tout ça pour qui ? Pour le client final.
Et on en revient à la visualisation créative, justement.
Exactement. L'entrepreneur, il a une fonction, un rôle. Je ne parle pas du côté financier pour l'instant, je le mets de côté. Je ne parle pas du côté managérial, je parle vraiment de l'entrepreneur vis-à-vis de son marché. C'est que les gens voient les choses avec le mauvais regard. C'est-à-dire, ils pensent, je vais arriver par exemple, j'arrive sur le marché des diamants, et bien le marché des diamants va faire de moi un milliardaire. Non, c'est j'arrive sur un marché, et c'est à moi en tant qu'entrepreneur, grâce à mon esprit créatif, grâce à mon innovation, grâce aux investissements que je suis prêt à faire, je vais apporter de la valeur sur ce marché pour le valoriser encore plus. Et dans ces conditions-là, qu'est-ce que va faire le marché ? Ben, il va vous accepter à bras ouverts. Il va vous dire, ben, viens avec nous, ton entreprise va être valorisée en bourse, va être cotée en bourse, donc pour toi, ça va être un levier d'enrichissement qui va être massif. Ton entreprise va valoir tant, tu pourras vendre des actions. Donc, il faut apporter au marché pour le convaincre de nous accepter en tant qu'entrepreneur. Il n'y a pas de situation accomplie. Ce n'est pas parce que j'ai créé mon entreprise à la CCI, ça y est, je suis entrepreneur. Pas du tout, ça ne marche pas comme ça. Je suis entrepreneur à partir du moment où j'ai choisi un marché qui me correspond à moi, qui correspond à mes principes et à mes valeurs, et auquel moi, par mes initiatives, par mes projets, par l'énergie que je vais mettre dedans, je vais pouvoir encore améliorer ce marché pour que le marché, après mon arrivée, soit encore plus riche qu'avant mon arrivée.
Dans cette perspective, l'idée, c'est de définir ce marché avec, comme premier passage à l'action, la décision de s'y engager.
Absolument. Déjà, il faut le choisir avec soin. Il faut bien réfléchir, parce que c'est une sorte de mariage. Parce que tu vas être dans cette relation-là, avec ce marché-là, pendant un certain temps. Donc, c'est très engageant.
Oui.
On ne choisit pas un marché par hasard. Le marché doit cocher plusieurs cases. Il doit y avoir une correspondance entre l'entrepreneur, son projet de vie et ce marché-là. Et le marché doit aussi être en capacité d'absorber votre arrivée. Parce qu'il y a des marchés, par exemple, monopolistiques qui sont fermés. Par exemple, si moi, demain, je veux créer une nouvelle enseigne de grande distribution, c'est techniquement possible, mais ça va être très lourd.
C'est saturé.
C'est très saturé, il y a déjà beaucoup d'acteurs. Donc peut-être que ce serait bien d'en racheter un qui est déjà existant, par exemple. Donc voilà, il faut se poser les bonnes questions. Il faut aussi connaître son marché. Il faut avoir une bonne vision du marché. C'est très important. Le marché, c'est tout. Rien qu'en ayant choisi le bon marché, en apportant le bon produit, on a déjà fait 80% du job. Les 20% restants, c'est du marketing et du commercial et du SAV. Donc on a déjà gagné, en fait.
Et il y a également de la persévérance, parce que l'entrepreneuriat est un long fleuve continu, qui n'est pas tranquille, et c'est ce qui fait d'ailleurs sa beauté.
L'entrepreneuriat, c'est un long fleuve pas du tout tranquille. Et c'est justement le fait que tous les jours, on ne sait pas ce qu'on va vivre demain qui fait son charme.
Et oui.
D'accord,
on sait pas.
C'est ce qui rend beau. C'est ce qui rend beau, c'est que tu vas rencontrer des gens que tu n'étais pas censé rencontrer, c'est que tu vas travailler avec des gens que tu n'étais pas forcément censé rencontrer dans ton parcours de vie, que tu vas avoir des clients, que tu vas prendre la parole. Si tu deviens connu, tu vas devenir une figure publique. Je pense à Michel-Édouard Leclerc, par exemple, pour citer un entrepreneur connu, ou Alain Fleloup en France. Ils deviennent des sortes de figures publiques qui représentent même tout le secteur dans lequel ils sont engagés, en fait.
Leur image, entre guillemets, est vraiment associée à la marque.
Ah oui, oui, totalement. Et d'ailleurs, les entrepreneurs qui réussissent, leur marque, c'est leur bébé, quoi. C'est vraiment, ils le protègent, ils font qu'un avec la marque. Ils fusionnent avec la marque, quelque part.
C'est une relation fusionnelle, effectivement. Et là, la première marque qui me vient à l'esprit, c'est Elon Musk avec SpaceX et Tesla. C'est quand on voit, en fait, le mot SpaceX et Tesla, on sait qui est derrière.
Oh, et c'est Elon Musk, c'est sûr. Il dort même dans les usines, quoi, pour s'assurer que la production avance. C'est quelqu'un, c'est un visionnaire. Après, il a ses défauts, il a ses qualités.
C'est bien de le souligner.
Il a ses défauts. Moi, je ne pense pas que le fait qu'il soit positionné pour la campagne politique américaine, là, que ce soit une bonne chose. Il a plus opté pour Donald Trump. Bon, c'est son choix, je le respecte. Mais je pense que c'est pas forcément le rôle de l'entrepreneur. Là, je trouve qu'il est un peu outrepassé. On n'est plus dans le business. On est dans l'opinion, on est dans le politique, on est dans un autre monde. Bon, d'ailleurs, Donald Trump aussi vient du monde de l'entrepreneuriat, mais lui, il s'est converti dans le monde politique. Mais ouais, je pense que l'entrepreneur, il devrait pas trop aller dans la zone politique. En France, Bernard Tapie a essayé de le faire et ça lui a causé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ennuis.
C'était Nike, hein, de mémoire.
Adidas. Il avait Adidas. Pardon. Il avait acheté Adidas aux héritières du fondateur. Et bon, après, il voulait aller en politique avec François Mitterrand à l'époque. Et ça a causé beaucoup d'ennuis. Donc ouais, je recommande pas aux entrepreneurs d'aller en politique. C'est vraiment deux mondes qui doivent se parler, qui doivent travailler main dans la main, mais qui doivent pas se mélanger. Parce que quand quelqu'un est à la fois entrepreneur et politique, il y a trop de pouvoir réuni entre les mêmes mains et c'est pas bon. Ça crée un déséquilibre démocratique. On n'est plus en démocratie. On est dans une sorte d'autocratie.
Pour entreprendre dans de bonnes conditions, il faut avancer dans un écosystème dans lequel on se sent à l'aise et en accord aussi avec nos valeurs.
Oui. Alors l'écosystème, par contre, pour compléter ce que je disais, l'écosystème, il est créé par le législateur. C'est lui qui va nous donner la structure globale dans lequel on va évoluer. Mais l'écosystème, qu'est-ce que c'est l'écosystème ? C'est le marché ? Ce sont les instances administratives ? Qu'est-ce que tu entends par écosystème, en fait ?
Tout ce qui gravite autour de la vie de l'entrepreneur.
Donc, il y a beaucoup d'administratifs, ouais. Bah oui, c'est une relation avec le législateur aussi, ouais. Ouais, ça marche. Bah, l'entrepreneur va plus s'adapter. Il va plus s'adapter. Mais c'est vrai que l'entrepreneur, il a intérêt à choisir un pays dans lequel, oui, il sera à l'aise et dans lequel il va pouvoir trouver des opportunités business favorables et positives.
J'aime beaucoup ta vision, le fait que tu abordes justement la vie entrepreneuriale de l'entrepreneur en incluant les administrations, parce que c'est un point sur lequel on parle souvent peu, mais qui a tellement d'importance dans la vie de l'entrepreneur, parce qu'au-delà de se concentrer sur son activité, il y a également toute cette partie administration, les obligations qui reposent sur les épaules de l'entrepreneur.
Oui. Après, il ne faut pas avoir la phobie administrative si on entreprend en France.
Il faut avoir conscience qu'il y a quand même un cadre qui est quand même relativement, je ne vais pas dire cloisonné parce que ce serait trop limitatif, mais que le cadre, en fait, il est bien présent. Il y a des démarches à faire, il y a des choses à réaliser continuellement dans la vie de l'entreprise. Ce que je veux amener par là comme information, c'est qu'il faut y être préparé.
Oui, il faut être prêt à supporter cette charge de travail.
Supporter, c'est le mot parfait.
Supporter, après, dans la vie d'une entreprise, bon, ça dépend si elle a beaucoup d'employés ou pas. Mais après, ce qui est bien dans l'entrepreneuriat aussi, il faut le dire, c'est que l'entrepreneur, il peut déléguer ces tâches-là à quelqu'un d'autre. Donc l'expert comptable ou la DRH pour toutes les parties médecine du travail ou autre. Donc l'entrepreneur, lui, il a un rôle, c'est qu'il doit se focaliser sur la créativité de son entreprise et sur le volet commercial. C'est surtout là où on l'attend. Et sur la constitution de sa dream team. Donc l'entrepreneur, selon moi, selon ma vision, il doit se concentrer sur la créativité, donc faire en sorte d'avoir toujours les produits les plus adaptés au marché, les produits ou les services qui vont avoir le plus de succès. Donc il doit avoir le flair, il doit sentir, il doit dire « je sens que ça va être un hit ».
Développer son feeling.
Quand il a ce produit, il dit « Ah, je sais que ça va faire un hit. Je sais que ça va marcher, ça va cartonner. » Avant même que ce soit sorti, il doit dire « Ah, je sens que là, c'est un tube. » Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, il doit gérer les finances. La rentabilité, la gestion, c'est de son ressort, c'est de sa responsabilité. Le côté management, quand je dis management, c'est vraiment les managers proches. Je ne parle pas de toute l'organisation, il n'a pas besoin de connaître tout le monde. Mais en tout cas, son équipe proche, Ça dépend comment l'entreprise se structure. Il doit bien la gérer. Il doit choisir les personnes qu'il va mettre au poste clé avec un très grand soin. Il ne doit pas choisir n'importe qui.
Ce sont ses piliers.
Plus que ses piliers, ce sont ses relais de communication. Donc, une sorte d'ambassadeur, ambassadrice. C'est-à-dire que quand moi, je ne suis pas là, c'est toi qui me représentes. Et je veux que tu me représentes de la meilleure des manières. Mais comme j'ai confiance en toi, je suis sûr que tu vas le faire très très bien. Tu vois, c'est le type de discours qu'un entrepreneur doit avoir. Et plus un entrepreneur va déléguer, on parlait du lâcher prise hors antenne, plus il va pouvoir créer, mener d'autres projets. Parce qu'on a tous 24 heures dans une journée. L'entrepreneur n'est pas un super-héros. Mais si tu regardes bien, les gens qui entreprennent beaucoup, on parlait tout à l'heure d'Elon Musk, on parlait de Xavier Niel, on parlait de Steve Jobs, ce sont des gens qui délèguent énormément. Mais après, aux yeux du grand public, c'est Elon Musk qui fait toute la voiture de A à Z. Mais non, c'est pertinemment que ce n'est pas le cas. Il y a des ingénieurs, il y a des designers, il y a des directeurs de production. C'est lui, aux yeux du grand public, qui récupère tous les lauriers du travail accompli par l'équipe. Mais il ne fait pas tout de A à Z, c'est techniquement impossible.
Pour enclencher une transition et faire le lien, pour déverrouiller le passage à l'action du business de l'entrepreneur, en off, tu as amené le momentum dans notre discussion et c'est tellement intéressant. Est-ce que tu peux nous parler du momentum ?
Le momentum, c'est une notion dérivée du développement personnel. Donc le développement personnel, c'est une discipline où tu vas apprendre à avoir confiance en toi, à lâcher prise, à apprendre qui tu es, à ne plus subir les blessures que tu as pu subir auparavant, en tout cas à mieux les amortir, à mieux les gérer, à prendre de la distanciation par rapport à ce qui se passe précédemment. Et donc le momentum, c'est un petit peu le résultat de ton développement personnel, c'est-à-dire que une fois que tu as passé toutes ces étapes du développement personnel où tu commences à avoir confiance en toi, où tu commences à passer à l'acte, le momentum, c'est le moment où tu deviens en quelque sorte intouchable. On ne peut plus t'arrêter. Ça y est, tu es lancé, la fusée est en train de décoller à la verticale à 90 degrés. Il n'y a plus rien qui peut l'arrêter, ça y est, elle va atteindre sa cible de toutes les manières. Et donc tous les réglages ont été faits, toutes les ressources ont été mises en place. Et donc le momentum, c'est un moment très particulier. Donc la responsabilité de chacun, c'est que ce momentum dure le plus longtemps possible. Alors il y a beaucoup de gens qui disent, il faut de la motivation, il faut rester motivé. Moi, j'y crois pas trop à la motivation, parce qu'elle est fluctuante. On peut avoir des conditions plus ou moins favorables. Mais moi, je crois plutôt à la discipline, pour que ce momentum dure. L'entrepreneur, il a besoin de constance, il a besoin d'efforts constants. Ce que je dis souvent à mes proches, c'est que je dis, l'entrepreneur, il a besoin de 3 victoires dans la journée. Il a besoin d'avoir une victoire physique, donc de faire un peu de sport, dans la limite de ses possibilités temporelles. Il a besoin d'avoir une victoire professionnelle, faire une réunion qui a abouti, réaliser des ventes, concrétiser un partenariat, ouvrir une nouvelle branche, ça peut être tout et n'importe quoi, recevoir une réponse positive. Rien que ça, des fois, ça réussit à faire de ta journée quelque chose d'extrêmement positif et joyeux. Un événement positif, ça suffit. Et il faut aussi une réussite, une réussite, un accomplissement spirituel. Ça peut être de la méditation, ça peut être une prière, ça peut prendre différentes formes, ça peut être ce que tu veux. Chacun voit midi à sa porte là-dessus. Donc c'est très important d'avoir ces 3 victoires. À la fois une victoire physique. Pourquoi c'est important la victoire physique ? C'est pas pour être bodybuilder ou pour faire les Jeux Olympiques, mais parce que, en fait, t'as besoin de cultiver en toi la culture de l'effort. Et si tu ne cultives pas cette culture de l'effort, lorsque l'opportunité va arriver, tu ne seras pas à même de la saisir. Tu es renfermé sur toi-même, ça ne marche pas. Donc tu as besoin de cette culture de l'effort et tu l'implémentes dans ta vie en faisant du sport. Après, c'est un lifestyle aussi. Les gens, ils aiment bien paraître en bonne santé. Ça permet de s'habiller correctement, ça permet de plaire à l'autre, ça permet de convaincre. On fait tous des métiers où on apparaît devant beaucoup de gens. Moi, personnellement, j'interviens dans des classes, je suis avec des clients. Donc voilà, l'image de marque, n'en déplaise à ceux qui sont contre, c'est très important et ça joue beaucoup dans les relations humaines.
On vit dans une société où effectivement l'image a un impact autant positif ou négatif sur la vie de l'entrepreneur. Chaque personne partage son point de vue à ce sujet. Le tout, c'est déjà peut-être d'être en accord avec soi.
Oui, déjà. Et de donner une image de soi avec laquelle nous, on est en accord, qui nous représente. Après, c'est pas un concours de beauté. L'entrepreneuriat n'est pas un concours de beauté. C'est pas de ça dont il s'agit. Mais le fait d'avoir une image respectable et respectée, déjà, on impose des standards, donc on se fait respecter par ses interlocuteurs.
On place son cadre.
On place son cadre et il faut qu'il soit à un niveau d'excellence si on veut être vraiment successful.
Selon toi, Bassem, faut-il viser l'excellence ou la perfection pour réussir quand on entreprend ? Je viens faire ce lien pour rebondir justement sur le mot excellence.
Il faut 3 choses. Il faut de l'excellence. Il faut de la perfection. Et quand tu allies l'excellence et la perfection, entre guillemets, tu atteins ce qu'on appelle la surperformance, c'est-à-dire le summum.
Intéressant.
L'excellence, comment moi je la définirais ? L'excellence, c'est une habitude de vie où tu essayes de faire le mieux possible, sachant que tu es à un instant T de ta vie, que les ressources que tu as aujourd'hui seront différentes de celles de demain. Peut-être que demain, tu auras plus de ressources. Ce qui met aussi le succès en perspective, parce que des fois, il y a des gens qui réussissent, mais il y a eu des événements, une conjoncture d'événements ou une conjoncture de personnes qui sont venues les aider à un instant T et qui font qu'ils ont eu un grand succès. Tu vois, chaque succès, il est relatif, en fait. D'accord ? Et puis, il y a des gens qui se travaillent tout seuls et qui doivent leur succès presque à eux-mêmes. En général, on n'est jamais tout seul totalement. Mais tu vois, donc il y a une conjonction de beaucoup d'événements. Donc, c'est pourquoi je dirais que l'excellence, en règle générale, c'est plus une approche où tu vas te dire que j'ai un produit, j'ai un service, je vais essayer de l'amener à son point culminant. Mais toujours en ayant conscience que tu vas l'amener à ton point culminant à l'instant T, c'est-à-dire avec tes dispositions mentales du moment, avec tes ressources du moment, et que si tu le ferais 2 ans plus tard, peut-être que tu le ferais beaucoup mieux, ou peut-être beaucoup moins bien. Donc il faut toujours mettre ça en perspective, les ressources dont on dispose. Concernant la perfection, c'est encore un autre sujet qu'il faut aborder, qui mériterait son propre podcast, c'est que moi je considère que la perfection elle est de ce monde. Il y a des gens qui disent que la perfection n'est pas de ce monde, mais pour moi c'est un peu lâche. C'est un peu une manière de se défausser, c'est une manière de se dire bah, restons un peu dans la médiocrité en fait, finalement on y est bien. Je refuse ce discours-là, de dire que la perfection n'est pas de ce monde. Moi je dis que la perfection elle est de ce monde et que c'est un lieu. C'est un endroit, on en avait déjà parlé dans une conversation précédente. La perfection, c'est un lieu et il faut s'y rendre en pèlerinage. C'est-à-dire il faut y aller avec beaucoup d'humilité, en sachant que la perfection nous dépasse, bien évidemment, qu'on n'est que les exécutants de cette perfection, que les exécutants. C'est comme si la perfection rentrait en nous, dans notre peau, sous notre peau, et que nous, finalement, nous étions que les outils de cette perfection qui s'exprime à travers nous. Et donc, quand tu allies cette excellence, c'est-à-dire cette volonté féroce de donner le meilleur de toi-même à travers tes produits, à travers tes formations, à travers tes conseils, à travers ton quotidien, plus en ayant conscience que cette perfection, elle existe, quand tu mélanges les deux, tu mixes les deux, finalement, tu es beaucoup plus performant que les gens d'à côté. Parce qu'ils n'ont pas forcément cette approche, cette volonté. Cette vision et cette exécution opérationnelle. Parce que faire ce chemin de la perfection, c'est aussi un chemin intérieur qui est très long. Il faut être très patient avant d'y arriver. Mais il faut beaucoup travailler.
Et ça passe par la connaissance de soi, peut-être.
C'est un prérequis. C'est un prérequis, la connaissance de soi, la culture de la réussite, la culture de l'échec. Accepter qu'on va échouer pour rebondir plus tard, ouais, c'est un très grand voyage. Peut-être le plus grand voyage de tous, finalement.
Accepter l'échec, c'est un challenge quand même pour pas mal de personnes. Alors que finalement, ça reste une expérience.
Il faut apprendre à relativiser l'échec. Il faut accepter de tenter plusieurs fois avant de pouvoir y aboutir. C'est-à-dire qu'il faut accepter qu'on ne l'aura pas forcément du premier coup, que notre objectif ne sera pas forcément atteint du premier coup.
Là, ce qui me vient, c'est l'image d'un enfant qui apprend à marcher. Il n'apprend pas à marcher du premier coup, il va tomber, il va se relever, oui. Peut-être 10, 15, 20 fois, certains 2, d'autres 25. Et c'est OK, ça fait partie justement de l'apprentissage.
Sauf que l'enfant, il fait ça d'une manière naturelle. Il ne se pose pas la question, il fait pas un business plan en se disant « Ouais, je marcherai peut-être d'ici le 10 octobre. » Il le fait, il le refait, et puis au bout d'un moment, bah, il marche. Sauf que nous, entre l'échec et la retentative, la répétition, il y a le doute qui s'installe. On commence à ressasser les événements, on commence à accuser les autres de notre propre défaillance. Et là, c'est pas bon. On rentre dans un cercle vicieux. Il faut vite se remettre dans l'action. Comme disent les cow-boys, si tu tombes du cheval, il faut remonter immédiatement parce que si tu restes trop longtemps par terre, déjà tu vas te faire écraser. Et tu remonteras peut-être jamais parce que tu auras la phobie de ça. Donc il faut remonter immédiatement. Il ne faut pas se poser 10 000 questions.
En fait, on se remet dans de bonnes conditions pour recommencer.
Il faut recommencer. Et par exemple, outre-Atlantique ou en Angleterre, les investisseurs, quand on fait des levées de fonds, ils investissent jamais sur toi quand tu es un primo-entrepreneur.
Parce qu'il n'y a pas eu assez de tentatives peut-être ?
Il n'y a pas eu tentative. Donc, ils te disent, bah, plante ta boîte et reviens nous voir parce qu'au moins, là, tu sauras tout ce qu'il ne faut pas faire. Donc, ils ont vraiment la culture de l'échec. Mais c'est une culture qui est positive. Tandis qu'en France, on va dire, t'as planté ta boîte, tant pis. Maintenant, t'as plus le droit. Bah, trouve-toi un job. C'est une autre approche.
Et d'ailleurs, il y a tellement d'inspiration à aller chercher. Il y a une ouverture qui est tellement colossale aux États-Unis au niveau de l'entrepreneuriat et en Angleterre.
Les États-Unis, c'est Disneyland pour les entrepreneurs, quoi. Là-bas, c'est... Alors, je dis pas que le pays est parfait, je dis pas qu'il faut forcément s'installer là-bas, mais en guise d'énergie, en guise d'inspiration, en guise de... Comment dirais-je, de tentative, on fait pas mieux.
Moi, je pense à la Silicon Valley, notamment pour l'innovation. C'est le berceau, justement, l'innovation.
Ouais, c'est le berceau de l'innovation, effectivement. Et là-bas, il y a les plus grands groupes au monde, les fameux GAFAM, Google, Facebook, Amazon, Apple et Microsoft. Et donc, c'est des groupes qui sont vraiment mondiaux. Mais réussir là-bas en arrivant de France, c'est très difficile parce que ta place là-bas, elle n'est pas du tout garantie. Donc, il faut vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup se battre. C'est pas du tout évident. Mais pour s'inspirer, aller là-bas, c'est très bien. Et puis, il y a des Français qui réussissent quand même.
Pour vraiment pouvoir enclencher le passage à l'action du business de l'entrepreneur, est-ce que tu aurais un tips ou un conseil à partager aux auditeurs?
Pour se lancer?
Pour oser passer à l'action?
Ça dépend du profil de la personne qui va se lancer. Par exemple, si quelqu'un il a déjà été salarié auparavant, oui. Si je devais discuter avec cette personne-là, je dirais, bah, t'as vu le salariat, peut-être c'est pas fait pour toi, la personne va peut-être acquiescer. L'entrepreneuriat, c'est pas forcément évident, c'est pas une balade de santé non plus, mais voilà ce que tu vas avoir dans l'entrepreneuriat. Tu vas gérer ton temps comme tu l'entends, tu vas devoir gérer tes clients. T'auras plus de patrons, mais les patrons vont devenir tes clients. Les clients seront tes patrons. Et tu vas pouvoir mener ta barque, bâtir tes stratégies. Donc, c'est hyper intéressant. Okay? Il n'y a aucun salarié qui pourra avoir la marge de manœuvre d'un entrepreneur. Ça n'existera jamais. Donc, ça dépend de l'âge, des dispositions psychologiques, de l'expérience de la personne. Donc là, j'ai pris le cas d'un ancien salarié. Si c'est un très, très jeune, je pense que j'ai pas besoin de le convaincre de se lancer dans l'entrepreneuriat. Il a bien compris que c'était le meilleur moment pour le faire parce qu'il vit encore chez ses parents, que la prise de risque, elle est nulle, qu'il n'a pas encore son appartement, qu'il n'a pas encore une vie de famille, donc il ne va pas forcément mettre en péril sa vie de couple ou ses enfants. C'est vraiment le meilleur moment pour entreprendre. Moi, si je pouvais revenir dans le passé, à mes 18 ans, je me donnerais comme défi à moi-même de créer une boîte par an jusqu'à mes 18 ans, même si elle se crache. Bah, c'est pas grave, au moins j'aurais tenté 10 fois, 15 fois, 20 fois, 30 fois, 40 fois. Et forcément, dans l'eau, il y en a bien une qui va cartonner. C'est obligatoire. C'est la loi des grands nombres. Un autre conseil pour compléter mon propos, j'aimerais bien parler de l'association avec les actionnaires parce qu'on n'en parle pas assez. Quand on s'associe avec des personnes, c'est très bien. Il faut le faire parce que des fois, j'en rencontre des entrepreneurs qui me disent « c'est fini, j'ai eu une mauvaise expérience ». On m'a floué sur l'argent, parce qu'il faut le dire, ça existe. On m'a floué sur les promesses. Le travail n'a pas été rendu dans les temps. Donc, la personne a vécu une mauvaise expérience avec d'autres associés ou d'autres actionnaires qui n'ont pas été au rendez-vous. Malheureusement, cela existe. Donc, moi, ce que je recommanderais, quand on s'associe avec des personnes, il faut bien s'assurer que le pouvoir entre ces personnes soit bien équitable. Quand on s'associe avec une personne, je prends un exemple qui m'est arrivé. On s'associe avec une personne et bon, l'association se passe bien, le projet démarre, par exemple, mais cette personne-là devient tout d'un coup autoritaire. Vous allez lui dire, je vais lui dire, là le prix, je pense qu'il faudrait peut-être revoir le prix peut-être. Et cette personne va vous dire, non, pas du tout. Le prix, on n'y touche pas. Hein. Donc là, on a deux choix. Soit on rentre en conflit, donc ça peut être très fatigant mentalement, psychologiquement, ça peut faire du mal à la structure parce que vous allez être... en tension.
En désaccord.
Et le prix, finalement, n'aura pas bougé. Donc, mine de rien, on est dans une sorte d'immobilisme. Il faut, dès le début de l'association, travailler à part égale, dans le sens où le pouvoir doit toujours être égalitaire dans les prises de décision. Il ne peut pas y avoir une personne qui veut dire « Non, le prix, tu ne touches pas. L'organisation, tu ne touches pas. C'est moi qui gère. » Parce que, qu'est-ce qui va se passer si quelqu'un agit comme ça avec vous? Au bout d'un moment, vous allez vous désengager. Dire, bah, le prix, tu ne touches pas? Ok. L'organisation, on ne peut pas la toucher? Ok. Le management, on ne touche pas? Bon, en fait, c'est plus mon projet, en fait, c'est ton projet. Là, je parle d'un cas vécu. Ok, bah, tu sais quoi? Bah, moi, je suis plus dans le projet. Vas-y, c'est ton projet maintenant. Dorénavant, c'est ton projet, puisque tu veux pas toucher à ça, tu veux pas toucher à ça, alors qu'il y a des améliorations potentielles. On pourrait perfectionner tel ou tel point. Tu bloques les finances, tu bloques le prix, tu bloques l'organisation, tu bloques le management. Vas-y, mène ta barque, et puis je vais voir où est-ce que tout cela va nous mener, ou va te mener, en l'occurrence. Parce que moi, je suis plus impliqué, mon avis n'est pas pris en compte, donc je me sens pas respecté. Et donc là, c'est exactement ce qu'il faut éviter. Faut pas rentrer dans ce type de configuration, dans ce type de prise de décision qui est trop unilatérale. Il faut toujours que ça soit de manière collégiale, dans l'idéal, et de manière démocratique. Donc si vous êtes deux, il faut que les décisions soient prises à deux et que vous arrivez à vous mettre d'accord sur un consensus. Sinon, ça marche plus. Attention avec qui vous vous associez. Et faites toujours en sorte que les parts soient égales et que les prises de décision le soient aussi. Sinon, ça crée... la fin de l'association, en fait, tout simplement. Et c'est un point qui est important, parce qu'on n'en parle jamais. On parle que des associations heureuses, on voit que les succès. Mais derrière beaucoup d'échecs d'entreprise, que tu évoquais dans l'épisode précédent, les fermetures, etc., il y a aussi beaucoup de mésententes et d'incompréhensions entre les actionnaires et les associés, entre eux déjà. Un autre conseil que j'aimerais donner, partager avec les auditeurs, auditrices, pour toujours rester en connexion avec cette intuition, c'est très important, c'est de toujours se mettre à la place du consommateur. Ça me paraît tellement important. Et donc moi, personnellement, moi, dans le cadre de mon activité éditoriale, je suis le premier client de mes produits. Je suis le premier lecteur de mes livres. C'est-à-dire que Quand je choisis un livre, je fais une veille informationnelle. Je vais beaucoup sur les réseaux sociaux, je regarde le top 10 des livres américains, la liste des best-sellers de New York Times, du Wall Street Journal. J'essaie de me connecter un peu à cette culture-là, de voir ce qui fonctionne, pourquoi, comment. Je me mets jamais dans la posture, au moment du choix du livre, le choix du produit, le choix du service, je me mets jamais dans la posture de l'entrepreneur. C'est-à-dire que c'est pas l'homme de finance qui décide. C'est pas l'homme manager qui décide. Absolument pas. C'est la personne, c'est le consommateur à l'instant T. Donc je me mets vraiment, et je me dis la question simple que j'invite à chaque personne qui va nous écouter à se poser, c'est est-ce que moi, j'achèterais ça? Est-ce que moi, je lirais ça? Est-ce que moi, je consommerais ça? Et rien qu'en répondant à cette question, ou bien par exemple là, je suis en train d'écrire un livre, est-ce que moi, je lirais ça? Et donc, j'écris toujours les livres que j'aimerais lire. Je propose toujours les livres que j'aimerais acheter. Et techniquement, si demain j'étais producteur de cinéma, je produirais les films que j'aurais envie de voir au cinéma. Et rien qu'en prenant cette boussole simple, une boussole assez binaire, est-ce que j'achète ou j'achète pas? Est-ce que ça m'intéresse, ça m'excite ou ça m'excite pas? Rien qu'en prenant la place du consommateur pendant quelques instants, après bien sûr il y a la raison de l'entrepreneur qui va reprendre le pilotage, mais rien qu'en prenant l'angle de vue du consommateur, c'est tellement important et ça nous donne vraiment le bon angle pour se placer au bon endroit pour se dire voilà, mon produit va cartonner, mais il va pas cartonner pour moi d'abord. C'est un point aussi très intéressant, très important que je voulais développer. Je le fais pas pour moi à la base, je le fais pour les autres. Et les autres, en achetant mon produit, en consommant, en partageant, ils vont me donner la valeur à moi après. Mais je le fais pas pour moi à la base. Je le fais d'abord pour les autres et c'est les autres qui vont venir me récompenser in fine.
Le fait d'avoir conscience du besoin du consommateur et de prendre en compte ses besoins en tant qu'observateur et en tant que testeur, quelque part, du produit ou du service.
Absolument. En tant que consommateur.
Voilà.
Ok. Moi, chez moi, j'ai beaucoup de livres, j'ai beaucoup de bibliothèques. J'ai une bibliothèque qui est très large. Et je me dis, est-ce que j'aimerais... Je me mets devant ma bibliothèque, je réfléchis comme ça, je me dis, est-ce que j'aimerais que cet ouvrage-là soit dans la pile-là de finances personnelles? Si la réponse est oui, je fonce. S'il n'a jamais été traduit en français avant et qu'il vient apporter quelque chose aux gens, j'y vais. Même si pour moi, c'est beaucoup d'efforts. C'est un vrai enjeu, c'est un risque financier qui est pris, un risque réel. Mais comme je suis drivé par ma passion et par cette envie de délivrer de la valeur aux autres, ça me permet de dépasser toutes les contraintes, toutes les petits tracas du quotidien que tu peux connaître et ça me permet de filer tout droit vers l'horizon.
Et en plus de ça, tu y crois. Comme tu y crois, tu as l'énergie suffisante pour déployer les moyens
absolument
d'atteindre le résultat que tu vises.
Parce que je suis drivé par cette valeur que tu vas apporter. Je visualise déjà la personne, homme ou femme, peu importe, en train de lire mon livre et en train de se dire « Ah ouais, en fait, c'est comme ça que je dois faire. » Et des fois, j'ai des messages, tu sais, que je reçois. On me dit « Ah oui, grâce à vous, maintenant, je budgétise mes finances. Grâce à vous, j'ai pu acheter une voiture. Grâce à vous, j'ai pu acheter une maison. Grâce à vous, j'en sais plus sur l'argent. » Et finalement, c'est ça la récompense. Et si on a bien fait notre job, ça c'est la récompense de notre communauté. Et après, si on a bien fait notre job, il y a aussi la récompense financière. Mais elle vient au bout du processus, elle ne doit pas venir au début. C'est pour ça que quand je parle avec beaucoup de gens, de jeunes gens, ils me disent l'argent c'est le moteur. Je leur dis non, l'argent ça ne doit pas être ton moteur. L'argent c'est le carburant et cet argent qui est un carburant, il doit t'amener vers autre part, vers un autre objectif, vers la perfection, vers l'Everest qu'on avait évoqué avant.
Tes mots sont de jolis cadeaux. Merci beaucoup pour ce précieux tips.
Je t'en prie, un plaisir. L'un des premiers pas que fait l'entrepreneur quand il commence à passer à l'action, c'est quand il commence à rédiger son business plan. Rien n'est fait encore, la structure n'existe pas, mais pour moi, l'étude de marché et le business plan, ce sont les premiers pas que fait l'entrepreneur. Il commence déjà à prendre connaissance de son marché, il voit l'opportunité business, il fait ses tableaux financiers, donc il commence à calculer les ratios, il voit ce que ça pourrait donner. Je précise que les tableaux financiers ne sont que du prévisionnel. Hein. En général, c'est jamais exactement ce qu'on a prédit. Je précise aussi à nos auditeurs, auditrices, qu'en général, la première année, on perd de l'argent dans beaucoup d'activités. La deuxième année, si on s'en sort bien, on est à l'équilibre. Et la troisième, on commence à gagner des petits revenus qui nous encouragent à continuer pour la suite. Donc, rassurez-vous, si au début, vous perdez, c'est tout à fait normal. Vous êtes en train de faire votre place sur le marché, donc pas d'inquiétude. Mais par contre, ces pertes-là ne doivent pas être trop prolongé dans le temps. Soyez vigilants là-dessus. Donc voilà, la première étape avec laquelle on se familiarise, c'est le business plan. Ensuite, ce business plan, on le présente à des business angels, des fonds d'investissement. Donc il faudrait que l'entrepreneur cultive l'art du pitch. L'art de la prise de parole en public, c'est très important. Donc plus la personne va être à l'aise dans ses prises de parole, il faut que ses mots soient choisis, qu'il trouve des modes d'expression qui soient convaincantes, qui aient une certaine force de persuasion. Ça, c'est quelque chose qui restera à vie, en fait. Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait enseigner à l'école. Des prises de parole, une heure par semaine, ce serait bien, des prises de parole en public, pour justement améliorer l'éloquence et cette force d'argumentation-là. C'est ce que certains entrepreneurs manquent. Donc voilà, je voulais revenir sur les premiers pas de l'entrepreneur. Le business plan, c'est un moment particulier. L'étude de marché aussi. Et puis après, la rencontre avec les premiers investisseurs aussi. Ce sont les premiers pas. En général, ils ne sont pas filmés, ils sont inconnus. Ça se passe un peu dans les backstage de l'entreprise. Mais c'est là où le projet prend son élan, prend son essor. Et bien sûr, le soutien des proches, les amis, la famille, c'est très important. Et puis si on n'a pas de soutien, on s'inspire des grands qui ont déjà réussi. Et il faut se dire qu'ils sont déjà passés par toutes ces étapes et qu'eux ont vu la lumière au bout du tunnel. Donc il n'y a pas de raison que ça ne soit pas le cas pour nous aussi.
Et comme tu l'évoquais dans le podcast précédent, l'accompagnement, être entouré pour mieux avancer et surtout pour avancer de façon constructive et positive aussi au fil du temps.
C'est très important, être bien accompagné. Le meilleur ami de l'entrepreneur, c'est ce que je dis souvent dans mes cours, c'est l'expert comptable. C'est-à-dire que si on a un expert comptable qui va nous conseiller fiscalement, qui va nous conseiller sur l'administratif, parce qu'il a plus d'expérience que nous, il faudrait le choisir avec beaucoup d'expérience, sur le bilan, sur le tribunal de commerce, sur le greffe, etc. C'est très très bien, c'est vraiment un support très appréciable. Et le fait que cette personne gère le bilan de l'entreprise, ça nous retire une grande épine du pied.
D'ailleurs, si vous avez un expert comptable qui vous conseille, qui vous accompagne en ce sens, gardez-le précieusement.
Ah oui, c'est une pépite.
Et si justement l'expert comptable n'assure pas ce rôle, il faut savoir aussi à un moment donné, et ça c'est une expérience personnelle que je viens de vivre, c'est qu'il faut savoir à un moment donné se dire, ok, si cet expert comptable ne m'apporte pas ce dont j'ai besoin, je vais changer. Tester autre chose.
Il faut changer, changer.
Exactement.
Moi, quand j'ai ouvert ma première entreprise en France, j'ai rencontré un expert comptable que je connaissais en fait au préalable à travers une autre activité. Il y a eu une mauvaise communication, c'est-à-dire qu'on s'était arrangé sur un prix mensuel que je devais lui payer, c'était quelques centaines d'euros par mois. Et moi, peut-être j'ai mal compris, peut-être c'est moi le fautif, j'avais compris que c'était ce prix-là englobait l'ensemble de sa prestation. Donc je commençais à le payer le montant de cet abonnement tous les mois. Et puis on est arrivé à la fin de l'exercice comptable et je lui dis, bon, maintenant c'est le moment de faire le bilan. Et la personne me dit, d'accord, mais maintenant pour le bilan, c'est temps. Et moi, là, je me dis, mais non, c'est pas possible. Dans le forfait que je lui payais, il n'y avait pas de fiche de paie, parce que j'étais seul entrepreneur. Il y avait juste la tenue d'une comptabilité, mais c'était quelque chose de standard que j'aurais pu faire moi-même sur mon ordinateur. J'ai dû payer plusieurs milliers d'euros pour faire mon premier bilan. Sauf que il a fait le premier bilan, après j'ai dit, non, bon, stop, on arrête, on fait pas comme ça. Donc j'ai changé de cabinet comptable. Mais donc voilà, faites attention, ne tombez pas dans le même piège que moi. Discutez bien des conditions financières avec lesquelles vous engagez et choisissez un expert comptable sérieux.
Et c'est valable sur tous les plans et avec tous les interlocuteurs, que ce soit des clients, que ce soit des partenaires, que ce soit des fournisseurs. Placer le cadre de la collaboration, quelle qu'elle soit, il est primordial pour pouvoir avancer en étant également plus en sécurité.
Oui, et puis globalement, j'ai été très déçu de ces prestations. Quand je lui posais des questions, par exemple administratives, il me renvoyait un mail avec le lien de impots.gouv.fr. Il me disait, bah, tu peux lire ça. Il ne vérifiait même pas si j'avais compris, si j'avais appliqué.
Ça, tu aurais pu le faire toi-même en fait. Ouais.
Bah, c'est ce que j'ai fait après. Ouais. J'ai changé de cabinet, j'ai repris un autre cabinet et dont je suis très content maintenant. Mais oui, n'hésitez pas à challenger bien vos fournisseurs et vos partenaires.
Exactement, et ça fait peut-être même partie du passage à l'action, de se dire, ok, là aujourd'hui, de quoi j'ai vraiment besoin et est-ce que je suis réellement satisfait de mon écosystème, des acteurs entre guillemets qui gravitent autour de mon entreprise et dans mon entreprise.
Exactement. Il faut jamais se complaire dans la facilité, dire voilà, j'ai ce fournisseur-là, c'est mon fournisseur historique, je change pas. Non. Quand tu fais un devis, tu lances 2-3 devis, tu compares, tu contactes. Pareil pour l'expert comptable, pareil pour les employés, tu les challenges, tu remets toujours en cause parce qu'il y a quelqu'un qui va arriver, qui a les dents, qui raye le parquet. Si toi, tu te challenges pas toi-même, lui, il va te challenger et ça va faire des très gros dégâts.
Je te remercie beaucoup pour toutes ces pépites, Bassem.
Je t'en prie, c'est un plaisir.
Quel serait pour toi le mot de la fin ?
Le mot de la fin sera l'entrepreneur, c'est un mélange de la culture de l'échec et de la culture de l'effort. C'est-à-dire que vous devez bien vous mettre en tête que dès le début, cela ne va pas forcément fonctionner comme vous l'avez imaginé, comme vous l'avez conçu. Et c'est OK, et vous devez être OK avec ça. Vous devez accepter le fait qu'au début, les débuts vont être modestes. D'accord ? Vous n'allez pas faire des milliards immédiatement. Et c'est OK, d'accord ? Donc commencez votre activité modestement, validez votre business model auprès de votre clientèle. Cette petite clientèle, aussi petite soit-elle, respectez-la valorisez-la, donnez-lui le maximum de valeur que vous pouvez à cet instant-là, en lui donnant les conseils adéquats, la valeur attendue, l'accompagnement, pour que eux puissent parler de vous en bien et pour élargir le cercle de cette communauté, et acceptez de repartir de zéro et de recommencer, et d'implémenter et de recommencer. Donc c'est vraiment un travail de très longue haleine qui demande à la fois patience, résilience et effort dans le temps. C'est pas donné à tout le monde d'entreprendre. Tout le monde voudrait être entrepreneur. Tout le monde voudrait être à l'affiche de toutes les magazines, de toutes les couvertures. Mais entre ceux qui veulent et ceux qui arrivent, il y a vraiment un delta qui est important. Et c'est dans l'attitude et la posture au quotidien qui peut faire la différence.
Ceux qui peuvent.
Exactement. Ceux qui peuvent. Il y en a qui, dans le lot, il y en a qui peuvent, mais qui n'ont pas les moyens. Parce qu'ils se disent, ouais, moi je peux, mais bon, voilà, on verra plus tard. Donc, on verra plus tard. Des fois, il y a des gens qui sont plus besogneux, mais qui travaillent plus que ceux qui ont plus de capacités et qui réussissent plus à la fin. Je me méfie toujours des gens qui peuvent. Et je préfère des gens qui font. Je préfère des gens qui ont vraiment accompli des choses. Et en général, c'est ce qu'on retient de quelqu'un. C'est qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Dis-moi ce que tu as fait. Ne me dis pas ce que tu peux, parce que techniquement, on pourrait être tout ce qu'on voudrait être. Mais dis-moi ce que tu as fait. Dis-moi comment tu l'as fait et dis-moi pourquoi tu l'as fait. Là, ça m'intéresse. Mais ne me dis pas ce que tu peux, parce que je sais que tu peux, techniquement, tu pourrais faire tout ce que je te demande. Montre-moi tes réalisations et là, on peut partir sur une base saine.
C'est une très belle vision que tu nous partages. Merci beaucoup.
Je t'en prie, c'est un plaisir.
Je te dis à très bientôt. Au plaisir de te retrouver sur Plumania.
À très bientôt. Merci beaucoup pour l'invitation.
Cet épisode vous a plu ? Votre avis est le bienvenu sur votre chaîne d'écoute favorite. Pour être informé de la sortie des prochains épisodes, il suffit de vous abonner à Plumania. Merci pour votre interaction. Où que vous soyez et quoi que vous fassiez, je vous souhaite une très belle journée ou soirée. À très bientôt.